Nous avons tous entendu un jour ce proverbe attribué à Aristote, « La musique adoucit les mœurs ». En langage contemporain, on peut dire que la musique a incontestablement des vertus thérapeutiques. Certains disent qu'elle touche l'âme et le cœur, qu'elle contribue à apaiser les angoisses, à gérer les émotions et autres bienfaits. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Sophie Bailly, musicienne et musicothérapeute. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, merci d'être venue à RCF pour nous parler un peu de votre parcours, parce que vous avez beaucoup de formations, je crois, alors on va en parler, et puis de votre activité de musicothérapeute. Alors, il y a combien de temps que vous êtes plongée, j'ai envie de dire, dans la musique?
Déjà, merci pour l'invitation. Alors, je suis plongée dans la musique depuis tout le temps, en fait, depuis la naissance, parce que mes sœurs jouaient déjà, et j'ai commencé à pratiquer vraiment quand j'avais 6 ans.
C'est ça. Quel instrument ?
J'étais pianiste. Je suis pianiste.
Vous êtes pianiste, oui. D'autres instruments maintenant ?
Oui, alors j'ai fait de la formation d'arbouka, de batterie et en autodidacte la guitare.
D'accord.
Voilà.
Voilà, mais c'est surtout votre instrument privilégié, c'est le piano.
Oui,
d'accord. C'est le piano. Alors vous avez fait de nombreuses formations, on peut en parler ?
Oui, alors... J'ai suivi un cursus normal, alors je ne sais pas s'il faut parler d'abord de la formation ou de mon cursus qui m'a amené là.
Oui, le cursus parcourt un petit peu vous en êtes venue à choisir la musicothérapie.
Oui, en fait déjà toute petite, j'aimais la musique, j'aimais soigner par la musique et je ne connaissais pas du tout ce qu'était la musicothérapie, mais en fait ça a fait un effet énorme sur moi pour oser m'affirmer, oser parler, oser être.
Oui.
Et donc j'ai fait plusieurs stages, déjà avant de me lancer avec Myriam qui était en Suisse. Elle faisait de la psychophonie avec Iseult Welsh qui est en Bretagne. Pareil, c'était de la psychophonie également. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la voix. Et ensuite, j'ai fait un parcours. Je voulais faire de la musique, mais comme la musicothérapie n'était pas connue à l'époque, j'ai fait un cursus universitaire.
Oui. Quand vous dites à l'époque, ça remonte à combien de temps à peu près ? À peu près.
En tout cas, il y a 40 ans, on n'en parlait pas autant, quoi.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui, d'ailleurs, l'art-thérapie était à peine connue il y a 40 ans.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'était des balbutiements. Hein,
voilà.
Oui. Mais je voudrais quand même qu'on reparte un petit peu du début, puisque vous dites que vous étiez amoureuse du piano, si j'ose dire, très jeune. Et vous avez passé des diplômes,
Oui, alors j'ai mon diplôme de fin d'études en piano, j'ai eu à l'ENM de Villeurbanne.
D'accord. Mais alors, quand est-ce que vous avez choisi de vous orienter vers la thérapie ?
Alors...
D'en faire, un métier, évidemment, et
du soin. Effectivement, j'ai fait une formation, j'ai un CAPES de musique, en faisant de la chorale avec les élèves, j'avais une élève en particulier qui jouait, alors qu'elle était assez stoïque, elle n'exprimait pas trop ses émotions, et j'ai vu quel impact ça avait sur elle, la musique, et j'étais moi-même surprise, et les autres élèves de la chorale étaient surprises aussi, parce que c'était une fille qui était en situation de handicap, et donc voilà, j'ai profité aussi de mon congé parental pour m'occuper de mes enfants, et aussi de faire ma formation en musicothérapie, parce que je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi il y a tant d'effets chez cette jeune fille-là.
Ah oui.
En sachant que déjà avant, c'est quelque chose qui m'intéressait.
Vous y pensiez, puisque vous disiez tout à l'heure que dès l'âge de 6 ans, vous aviez envie d'être dans le soin.
Oui.
Alors c'est quand même assez exceptionnel ça. Ouais. Peut-être que vous preniez soin de votre poupée.
Ah non, je crois que je prenais soin de moi.
De vous.
De moi.
Très bien, oui.
De moi.
Voilà, alors cette formation, elle a commencé il y a quelques années, j'imagine.
Donc ça fait déjà 5 ans que j'ai terminé, donc ça fait 8 ans. Voilà,
oui.
J'ai été formée à l'AMB de Dijon.
Qu'est-ce que vous appelez l'AMB ?
L'atelier de musicothérapie de Bourgogne.
D'accord,
c'est
AMB.
C'est une école
à Dijon,
qui forme des élèves à la musicothérapie.
Oui.
Voilà.
Donc il faut, j'imagine, avoir déjà un très bon bagage en musique, une bonne compétence.
Alors en musique, mais pas forcément, puisque de toute façon, c'est ouvert à tous. Et on a des cours à la fois de psychopathologie et des cours de didactique où on met en avant nos compétences. Donc si on n'est que chanteur et qu'on a cette volonté d'aider par la voix, c'est aussi possible.
D'accord.
Voilà. Mais effectivement, on a plusieurs outils pour aider dans le soin, quoi.
Donc, vous faites cette formation pendant quelques années?
Voilà, j'ai fait 3 ans de formation à l'AMB. Ensuite, j'ai fait un cursus de spécialisation avec la personne âgée et autour de la petite enfance. Et pendant ma formation, il fallait faire des stages. Donc, j'ai fait aussi des stages avec un professionnel musicothérapeute qui utilisait des bols chantants. C'est des bols tibétains, ce qu'on appelle les bols tibétains.
Oui.
On avait utilisé ça avec des gens qui avaient des pathologies polyhandicapées. J'étais assez surprise de comment il utilisait cet outil-là. Il y avait beaucoup de stimulation, beaucoup d'activités motrices qui se mettaient en fin de séance. Donc, j'étais surprise. Donc, moi, j'ai voulu en acheter un, comme tout le monde. Et puis, en fait, je l'ai mal utilisé.
Ah.
Voilà.
C'est-à-dire ?
Parce que, du coup, la personne, quand j'ai utilisé, est partie du groupe. Ah. Et je me suis dit, non, en fait, le but du soin, c'est pas qu'une personne d'un groupe parte. Parce qu'il y a trop de stimulation.
Voilà. C'était à cause de ça qu'elle est partie ?
Et oui, je pense.
Et oui, en effet. Alors, ça suscite vraiment de grosses émotions au point de fuir, presque.
Et oui, c'est ça. Et donc, la musicothérapie, c'est d'abord renouer les canaux de communication. C'est pas faire exclure quelqu'un en plus.
Ah c'est pas le but, bien sûr. Oui.
Donc, du coup, je me suis formée en plus avec Emmanuel Comte, qui est un sonothérapeute canadien. Et là, j'ai vraiment appris à écouter les bols chantants, à comprendre ce qu'étaient les fréquences, ce qu'étaient les diapasons thérapeutiques. Mmh. Et donc, maintenant, c'est un atout à la fin de mes séances en musicothérapie. Voilà, sur le corps, sur la détente.
Alors, on va parler de vos différentes implications, activités, parce que vous travaillez en libéral, dans des associations, enfin, comment ça se passe?
Donc, j'ai un cabinet en libéral, effectivement, où je prends des personnes en individuel. Et puis, je travaille avec une association qui s'appelle, plusieurs, une qui s'appelle France Alzheimer de l'Ain, et une autre qui s'appelle La Page, service d'activité du jour.
D'accord.
Et puis, j'ai aussi une intervention dans le milieu scolaire, parce que c'est là d'où je viens quand même.
Ah oui.
Et là, ça s'appelle, on n'appelle pas ça musicothérapie, parce qu'il n'y a pas l'étiquette musicothérapie, mais médiation musicale. Voilà. Pour des adolescents qui sont pas des difficultés scolaires, mais des difficultés relationnelles, des phobies. Troubles du comportement, voilà.
Donc, vous avez un panel d'activités, qui est très diversifié.
Oui, et puis de public qui est très riche.
C'est ça, voilà.
Qui est très riche.
Je me tiendrai là, sans rien te dire, en une sorte de silence qui dira tout. Et tu seras là, tu comprendras, et tu te tairas avec moi, de toi à moi. Embrase-moi en silence, et je te connaîtrai un peu, et tu seras en même temps si loin que je te chercherai. Et pour te retrouver, j'irai sans me lasser sur les chemins des hommes. Je me tiendrai là, sans rien te dire, en une sorte de silence qui dira tout. Embrasse-moi en silence.
Vous êtes bien sur RCF Pays de l'Ain. Nous sommes à l'heure indinoise et nous accueillons aujourd'hui Sophie Bailly, musicothérapeute. Alors vous nous avez parlé un peu de votre parcours, de vos formations qui sont nombreuses et vous ont donné beaucoup de compétences finalement, puisque vous avez un public qui est très varié. Alors on va parler quand même plus précisément maintenant de, au fond, comment ça se passe la musicothérapie, quels sont vos moyens, en quoi ça consiste.
Alors avant de vous répondre, je vais vous faire un petit parallèle avec la musique que j'ai choisie, que vous m'avez demandé.
Oui.
C'est une musique qui me parle parce que je me tiendrai là sans rien te dire. Et c'est le premier outil, c'est d'abord être là, présent pour les patients, dans ce silence où tout peut se révéler, tout peut se jouer. Et donc ça, c'est un premier outil. Le deuxième outil, c'est que c'est une chanson nous avons beaucoup chantée quand ma maman était malade et lors de son décès. Et cette histoire de vie, en fait, ça rejoint les patients. Donc moi, ça me rejoint, du coup, lâchant que je suis émue.
Oui.
Et l'idée de la musicothérapie, le deuxième outil, c'est vraiment de rejoindre le patient là où il en est. Là où l'émotion est là et là où on peut tout accueillir. Voilà. Donc il y a souvent tout un travail en amont sur l'histoire sonore du patient, ce qu'on appelle l'iso-sonore.
Oui, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, l'iso-sonore, c'est vrai qu'on m'avait posé la question au démarrage, depuis quand vous aimez la musique? Depuis le début, mais même depuis intra-utérin. Parce que tous les sons, les gargouillis, ça fait partie de la musique.
Ouais.
Donc, la musique, comme disait Platon, effectivement, ça adoucit les mœurs, mais c'est aussi intra-utérin. C'est tous les bruitages qui se sont manifestés depuis la naissance jusqu'à la fin. Et c'est vrai que quand on arrive à prendre ces éléments constitutifs de la musique, qui sont reliés à l'histoire de vie du patient, à l'émotion du patient, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont stimulées. Mmh. Voilà. Donc ça peut être effectivement des chansons, comme ça peut être des sons. C'est pour ça que parfois on peut, en formation de musicothérapie, on va pas dire pour détendre, on va mettre une cascade en fait, parce que si quelqu'un a failli se noyer, ça va pas l'apaiser.
Ah d'accord.
Voilà. Donc il va falloir qu'on connaisse un petit peu son histoire de vie et savoir par où on le rejoint. Voilà. Et quand on arrive vraiment à aller là, il y a beaucoup d'éléments qui s'ouvrent, qui se permettent de se partager, qui permettent de dire. Voilà. Donc ça c'est le troisième élément, c'est cet iso-sonore, c'est-à-dire ce qui constitue le patrimoine sonore de la personne. Et ensuite, on a le corps, notre voix et notre corps. Depuis longtemps, la musique, on a voulu s'adapter à la nature, au rythme de la nature. Et là, vice-versa, on essaye de s'adapter à ce qui se passe passer, ce qui va se jouer en face de nous. Et donc, ça peut être au niveau du non-verbal, c'est-à-dire ça peut être un claquement de doigts. Donc, le musicothérapeute, on observe ce qui se passe en non-verbal. Si c'est quelqu'un qui tourne parce qu'il a des troubles autistiques, voilà, comment on le rejoint. On va peut-être tourner avec lui. Si c'est quelqu'un qui classe, on va peut-être commencer à classer. Et puis, on va commencer peut-être à compter jusqu'à le rejoindre parce que peut-être que sa porte d'entrée pour lui, pour rentrer en communication, c'est compter. Voilà. Oui. Donc, c'est pas forcément que de la musique, c'est rejoindre la personne, objet sonore. Voilà. Donc l'objet sonore, ça peut être une balle, ça peut être un foulard, ça peut être aussi, ensuite, ça peut être un objet. Parce que parfois, être en face à face, ça peut être compliqué, le corps, ça peut être compliqué. Donc on utilise aussi des objets divers et variés. Moi, j'ai dit handpan, ou ça peut être des ukulélés. Handpan, c'est un instrument assez intuitif, qui est en métal. Des ukulélés, des petites percussions, des pianos, des petits carillons. Enfin, on a beaucoup de petits outils ou des petites boîtes à musique quand ça, on a besoin d'apaiser. Voilà.
Vous avez toutes sortes de moyens, en fait, hein, à votre disposition, qui ne sont pas seulement musicaux, mais des objets, comme vous dites, qui peuvent provoquer quelque chose chez la personne.
Oui. Donc, quand on a vu cette communication non-verbale dans la gestuelle, on peut aussi donc proposer l'instrument parce que parfois se regarder c'est difficile, donc on communique par le biais de l'instrument et puis après ça y est, il y a quelque chose qui se regarde, qui se permet d'être vu. Moi, combien j'ai de patients qui me tournaient le dos en fait parce qu'ils sont pas dans la communication et donc on communiquait dos à dos ou derrière un rideau plus ou moins, j'étais quand même en surveillance, et puis on communiquait avec l'objet sonore.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment sortir la personne de son isolement aussi. Et en fait, on peut pas vivre seul, on s'est rendu compte de ça, qu'on peut pas vivre seul. Donc quand on ne peut pas communiquer, ben, on communique par un autre moyen.
Oui. Et c'est l'objet est médiateur.
L'objet est médiateur, oui. Le corps est médiateur, la voix est médiateur, médiateur, le silence est médiateur aussi. Voilà. Oui. Et tout ce qui englobe tout ça, ben, j'ai envie de dire, c'est le cœur en fait.
Ah.
Ouais. Et ça, c'est vrai que quand on me dit qu'est-ce que je fais comme profession, c'est vrai que je compte pas mon temps et je fais tellement ça avec plaisir. Ah ça oui. Me fait plaisir de...
Oui, alors justement, je me disais, en suscitant comme ça, en permettant l'expression d'émotions chez les personnes que vous accueillez, ça doit aussi générer des émotions chez vous.
Alors oui, ça peut générer des émotions, effectivement.
Puisque vous dites que le cœur est partie prenante, alors
oui, oui.
Forcément, oui.
Et par rapport à notre accompagnement thérapeutique, je ne sais, je connais pas toutes, mais en tout cas, Winnicott, qui est un psychanalyste, il disait, ben voilà, nous, on doit travailler sur l'ère transitionnelle, c'est-à-dire, on se met en jeu, en fait. Mm-hmm. On se met en jeu, on représente deux cercles, il y a le cercle, c'est un patient, l'autre cercle, c'est moi, les deux cercles s'entremêlent, et puis l'ère intermédiaire, c'est là où on se rejoint.
Voilà. Ouais.
Et c'est là où, moi, effectivement, je peux être transfert, contre-transfert. J'ai tout un travail de développement personnel et d'accompagnement à côté.
Certainement.
Pour que je puisse permettre aux patients, ils puissent faire le transfert sur moi, qui s'exerce, entre guillemets. Et puis après, qu'on se décolle pour qu'on voit qu'est-ce qui peut, que lui, il a d'autres possibilités de faire ça en dehors de la séance.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est super intéressant, en fait, d'observer ce qui joue dans ce transfert, ce contre-transfert. Donc l'autre outil, effectivement, mis à part quand on joue, c'est nos yeux, on doit beaucoup observer ce qui se passe et aussi se mettre en jeu et observer ce qui se passe chez le patient et ce qui se passe chez moi pour pouvoir après détacher. C'est magnifique.
En effet, oui.
C'est beau.
Alors, les personnes qui viennent vers vous, elles présentent, vous en avez parlé un peu, des autistes peut-être, des...
Alors, j'ai des enfants...
Des autres pathologies...
Qui ont des déficiences intellectuelles aussi, un groupe qui a des déficiences intellectuelles...
Oui.
J'ai des personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer.
Alors là, c'est probablement plus des personnes âgées.
Là, c'est du coup plus des personnes âgées. Voilà.
Et vous les recevez en cabinet ou bien plutôt...
En cabinet ou alors j'ai pu intervenir au sein de l'UVP à l'hôpital ou en maison de retraite ou en accueil de jour. Quand il y a des appels à projets, le dernier récent là, qui vient de se terminer, c'était le syndrome de glissement chez la personne âgée, de dépression. Donc voilà, moi je travaille beaucoup aussi avec les psychologues pour faire du lien, je ne suis pas psychologue, donc chacun son métier, mais en tout cas...
Vous êtes thérapeute.
Voilà, mais on travaille ensemble, souvent en collaboration, et on essaye de voir, ce patient, il faudrait travailler ça, sur tel plaisir, sur telle stimulation cognitive, sur le trouble du comportement, sur les habiletés sociales... Sur l'audace, voilà. On a plusieurs objectifs. Et en fonction de l'objectif, on va utiliser différents outils que je vous ai dit.
Oui.
Et pour essayer de les mettre en jeu et qu'il y ait une évolution, que le patient puisse s'en saisir.
Et les patients, ils viennent volontiers à vos séances?
Ah oui.
Oui?
Oui. Alors ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, du coup, ils sont plus là, vraiment, dans le présent. Parce que ceux qui sont à l'UVP, par exemple, la maladie est déjà très avancée. Et là,
UVP, c'est...
Unité de vie protégée.
Ah, d'accord.
Voilà. C'est un service qui est un peu fermé. Et parfois, ça est très dur pour les aidants. Donc, par exemple, il y avait un objectif thérapeutique, c'était comment on peut accompagner son conjoint ou son parent à l'UVP sans se sentir coupable de le laisser dans cette unité-là. Donc, par exemple, avec France Alzheimer, c'était un objectif de travailler sur l'aidant et l'aider, surtout, pour pouvoir permettre à qu'ils se sentent quand même encore un peu utiles, qu'ils voient encore leur conjoint souriant, dynamique, encore avec des capacités. Voilà, parce que la musicothérapie, ça aide à mettre en mots aussi, à mettre en musique, à mettre en mouvement. Et donc ça réjouit souvent les aidants.
Et oui, ils en ont bien besoin. Hein.
Oui. Et puis ça les détend parce que du coup, ils se reposent, ils ne sont pas sur les tâches matérielles, administratives. Voilà.
Est-ce que vous arrive que certains patients réagissent d'une façon presque, je dirais, agressive, violente, à certains sons? Comme si ça suscitait chez eux quelque chose d'insupportable. Est-ce que ça arrive, ça?
C'est plus leur état émotionnel qui suscite ça. Aujourd'hui, par exemple, je viens d'une séance où il a tourné en boucle, il disait j'ai oublié mon piano, parce qu'il avait il a eu un petit piano pour Noël. Et donc il était plus agacé pour ça en arrivant.
Oui.
Si je cible bien, ça peut évoquer effectivement peut-être des états émotionnels qui sont là, par exemple quand il y a un décès dans un groupe, et ben ça peut être difficile à accompagner. Et si on rechante la même chanson qu'avait choisi un patient, et ben oui, ça peut être compliqué à...
Ouais.
Donc ça s'accompagne, on accompagne tout ça, l'histoire de vie quoi.
Alors et vous-même, est-ce que vous êtes accompagné pour faire ce travail de supervision?
Oui. Moi, je continue toujours la supervision, et ce qui est indispensable pour bien vérifier ce qui est du transfert et du contre-transfert, en tout cas.
Une supervision individuelle, alors, pas collective.
Alors, parfois, il y a du collectif aussi. Ouais, voilà.
D'accord.
Individuel et collectif. Et puis, je continue mes formations à côté, qui m'aident en psychophonie, en communication non-violente aussi. Ça permet de se dire quelle est la bonne posture, la bonne justesse, quels sont les bons mots à avoir. Voilà, je pense que c'est important de continuer à se former, ouais.
Vous êtes bien sur RCF Pays de l'Ain, l'heure indinoise. Nous accueillons aujourd'hui Sophie Bailly, musicothérapeute. Alors vous nous avez parlé un petit peu en quoi ça consiste la musicothérapie, combien ça peut rejoindre et toucher les personnes que vous accueillez, qui sont des personnes fragiles, psychiquement et peut-être physiquement aussi.
Oui.
Alors je crois aussi que vous êtes formatrice. C'est-à-dire que vous aimez tellement ce que vous faites que vous avez envie de le partager avec d'autres, c'est ça?
C'est ça, oui, c'est vrai. Je suis formatrice plus autour de la petite enfance et de la communication avec la médiation musicale, voilà. Donc là, j'interviens, pareil, dans des associations ou des centres de formation qui m'appellent. Ça se rejoint en fait, toutes les personnes qui sont assistantes maternelles qui voudraient se former, les RAM, relais d'assistance maternelle, les crèches, voilà. Et c'est pareil, je donne des outils sur comment on peut se mettre en lien avec l'enfant qui n'a pas tout de suite accès au langage et comment on pourrait stimuler le langage. Donc avec plein de comptines, avec plein de chants, avec plein de jeux à doigts, avec voilà. Quelle est la posture à avoir, quels sont les jeux qu'on peut proposer,
Mais vous n'avez pas de contact direct avec les enfants. Vous vous adressez aux professionnels.
Donc là, je m'adresse aux professionnels, mais j'ai quand même dans mon activité une partie où je m'adresse à des enfants, où j'interviens, bien sûr, au sein de relais d'assistante maternelle.
D'accord.
Voilà.
Alors là, les petits sont là et puis...
Les petits sont là avec les nourrices, souvent, les assistantes maternelles.
Ouais.
Et on joue et souvent, y a beaucoup de questions qui se posent. Ben voilà, un tel, il ne parle pas, il ne marche pas encore. Alors que la norme dirait qu'il faut faire comme ça, comme ça. Donc, on est là pour aussi donner des petits outils aux assistantes maternelles et puis des jeux auprès de l'enfant. Et puis, tiens, il s'est calmé. Ah, tiens, et là, il n'a pas pleuré parce qu'il n'a peut-être pas connu. Donc, oui, donc ça, c'est pour agrémenter mon... C'est une autre panel de ma profession, mais c'est vrai que la formation, du coup, j'ai des outils pour pouvoir donner ça aux assistantes maternelles.
Qui doivent être bien appréciés, ces outils.
Oui. Et puis, je fais des formations aussi en sonothérapie, du coup, pour les professionnels de santé qui voudraient se former un petit peu plus autour des fréquences, des diapasons, qu'est-ce que c'est, comment on les utilise sur le corps, comment on fait. Voilà.
Alors, attendez, les professionnels de santé, donc infirmières, infirmiers, soignants.
Oui, ça peut être ça.
Et vous dites alors que, en quoi ils interviennent?
La formation que je propose en sonothérapie, par exemple, j'ai un protocole anxiété, il existe des protocoles anxiété, harmonisation. Et là, on utilise chaque, dans notre corps, on a des méridiens, on est vibrant, on a des corps vibrants, on a des cellules qui bougent. Et quand on a des tensions musculaires, quand on a des problèmes d'acouphènes, quand on a des problèmes pour dormir, quand on a des problèmes de dos, et ben souvent on utilise la bonne fréquence. Donc, il faut savoir quel est le bon point à utiliser. Et c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise.
Ah oui, j'allais dire, parce que comment on fait pour mesurer la bonne fréquence, justement?
Voilà, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'est au lieu d'avoir des aiguilles, on a les diapasons thérapeutiques et on utilise les bonnes fréquences pour pouvoir mettre en mouvement. Et c'est ce qu'on appelle, c'est physique, la loi de la résonance.
Ouais.
On remet en mouvement ce qui peut être bloqué. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un médecin, mais c'est un complément à la médecine, aux soins. Et donc, quand en musicothérapie, quand quelqu'un a des troubles de comportement, je me souviens, j'ai un jeune là qui, j'avais peur qu'il casse tout. Du coup, j'ai renforcé sa bulle sonore, avec les diapasons. Et là, petit à petit, j'ai pu m'approcher de lui, mais sinon, c'était pas possible.
Ouais.
Il n'avait pas de filtre, il tapait direct, quoi. Donc moi, je voulais pas... Voilà, il fallait qu'on ait d'abord une distance pour pouvoir se mettre en lien, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, donc ces formations-là en sonothérapie, ça aide à... Voilà, je donne 2-3 pistes, quoi.
D'accord.
Voilà.
Alors, je crois que vous avez aussi une intervention dans le domaine de la bienveillance.
Ah oui, donc j'ai travaillé il y a des années de ça avec une psychologue, Marie-Dominique Texier, au sein de l'association Senza. J'ai fait du bénévolat aussi au sein du MAN, Mouvement pour l'Action Non-Violente. Et donc du coup, c'était pour mettre un petit peu en avant ce que j'avais fait en formation sur la communication non-violente, donner des outils comment communiquer de manière bienveillante auprès de ses enfants, auprès de son conjoint, auprès de
tout un art.
Tout un art, oui, tout un art.
Oui.
Ouais. Donc ce cycle de bienveillance est déjà terminé. Et là, il y a un cycle qui va se refaire bientôt, ce qui s'appelle le cycle des souffles taoïstes.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, les souffles taoïstes, c'est une passerelle entre la musicothérapie et la sonothérapie. En fait, c'est une pratique à la fois de techniques respiratoires et de mouvements. Et on sait que chaque organe a une vibration et est associé à un souffle. En médecine chinoise, c'est ça. Donc, on fait des mouvements pour stimuler soit le foie, soit réharmoniser. Et donc là, il y a un cycle qui va se démarrer sur 10 séances bientôt, sur ces souffles taoïstes et cette musicothérapie réceptive avec le chant des voyelles. Le chant des voyelles.
C'est-à-dire quelque chose à découvrir aujourd'hui.
Oui, ouais. Et bien, en fait... si vous sentez votre, si vous faites un on a ce qu'on appelle des ondes stationnaires qui aiment bien se poser à certains endroits du corps, quelle que soit la hauteur. Et ben le A, c'est la vibration du cœur. Et donc toutes les voyelles ont une vibration et aiment bien se stationner à certains endroits du corps. Et du coup, on se fait vibrer, on s'automasse en faisant ce cycle-là, en faisant ce chant des voyelles. Et donc ça détend et ça harmonise. Et c'est beau parce que ça a des bienfaits sur le corps, en fait,
oui.
Et sur le psychisme, parce que du coup, ça fait lâcher aussi le mental.
Eh bien, écoutez Sophie, on vous écouterait pendant des heures, mais malheureusement, on va devoir clore cet entretien. Alors, simplement, justement, vous dites qu'il y a cet atelier qui va commencer bientôt. Peut-être vous pouvez donner les références pour les personnes qui seraient intéressées. Ou alors simplement, elles vont voir sur votre site.
Alors, soit vous pouvez aller sur le site musicothérapie-1.fr, ouais. Ou alors m'appeler directement.
Oui.
Téléphone.
Oui.
06 75 88 96 73. Et je mettrai les informations sur le site internet également.
Un grand merci Sophie, et bonne chance à vous et bonne continuation.
Merci à vous aussi.